10 minutes avec
Radio Grenouille. 10 minutes avec
la rédaction des 3-8. 10 minutes avec
10 minutes avec Pierre Arnold et Charlène Lemarié, à l'initiative du projet Habitat en Mouvement, un projet sur l'habitat alternatif qui les a menés sur les routes d'Amérique latine. Bonjour.
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 J'aimerais savoir la raison pour laquelle vous avez décidé de partir, je crois, 6 mois en Amérique du Sud. 10 mois.
10 mois
en Amérique du Sud, en apprentissage, on va dire, des formes d'habitat.
C'est ça. En fait, on a vécu 3 ans en Amérique du Sud, donc une année à Mexico, une année à Buenos Aires. Donc on travaillait essentiellement sur le domaine de l'habitat. Et on avait vu qu'en habitat, en Amérique latine, il y avait beaucoup de formes d'autogestion, d'autoconstruction.
Et ils sont beaucoup plus en avance que nous, non?
J'ai l'impression que le problème étant qu'il n'y a pas d'état fort, donc les gens sont obligés de se débrouiller avec les moyens du bord et de construire leur propre habitat. Donc forcément, sur les formes d'organisation, d'autogestion, ils sont plus en avance que nous.
Ils sont probablement, je ne sais pas si c'est pertinent de parler d'avance, mais en tout cas, ils ont un sentiment de la solidarité et de la nécessité qui les rapproche et qui leur permet de se projeter et de créer ensemble, ce qui est quelque chose que peut-être en France, on a plus perdu.
Est-ce qu'il y a des projets en particulier qui vous ont marqué pendant ce voyage ?
Alors, on a fait un tour, on est parti de Buenos Aires pour revenir jusqu'à Buenos Aires après 36 000 km et 10 mois de voyage. Donc on a traversé tous les pays d'Amérique du Sud. On en a vu énormément, des projets, et il y en a plusieurs qui nous ont marqués. On va en dire peut-être quelques-uns chacun. Moi, je me rappelle par exemple un projet d'autogestion au Venezuela, à Caracas, où la politique de la révolution socialiste, c'est de récupérer des friches ou des terrains intra-urbains qui n'ont pas d'utilité ou alors un usage spéculatif, pour le mettre à disposition des familles de faibles ressources pour qu'elles puissent auto-construire un logement. Et donc on a été voir une de ces initiatives dans laquelle il y avait 96 logements en construction sur un terrain urbain très très bien situé à côté des stations de métro, etc., qui a été récupéré, exproprié par le gouvernement et mis à disposition des familles pour qu'elles puissent construire. Donc elles ont construit de A à Z les bâtiments qui ont à peu près 5 ou 6 étages. Et tout a été fait par elles-mêmes, elles ont tout décidé de la forme qu'allait avoir le logement. Et chaque logement est différent à l'intérieur, donc il y a différentes typologies, les familles font les murs à l'intérieur, les cloisons. Il y a beaucoup de
même
diversité dans ce
sur
projet.
Il y avait même le travail manuel était pris
bien
en charge,
sûr,
par,
oui,
par les familles.
Oui, ils faisaient tout de A à Z. Et ce que demandait le gouvernement pour exproprier le terrain étant un début d'organisation des habitants. C'est des habitants qui se retrouvent, qui vivaient dans la rue ou chez leur famille, et qui avaient besoin d'avoir un logement. Donc ils s'auto-organisent entre eux en disant « nous c'est bon, on est constitué entre un groupe d'habitants, donc on veut ce terrain-là, on est prêt ». Et voilà. Donc là, le gouvernement a mis en place, a laissé libre le terrain, et ils ont commencé le processus de construction. On était les voir et ils avaient pratiquement fini. Et c'était très très intéressant dans le dialogue et la conscience politique et voilà, de construire vraiment différemment. Et chaque personne a vraiment un rôle particulier à jouer, même si au final la personne ne connaît rien en construction. S'il sait faire les gâteaux, bah voilà, il va nourrir les ouvriers tous les jours avec des gâteaux, la cuisine. Voilà. Donc, chaque personne a un rôle à jouer. Et c'était ça qui ressortait la discussion sur... voilà.
Il y avait un modèle en Uruguay aussi qui vous a particulièrement marqué ?
Oui, tout à fait. Le cas du Venezuela, ça peut paraître particulier au niveau du gouvernement qui est là-bas. L'Uruguay, en contrepartie, c'est un tout petit pays assez méconnu qui se trouve coincé entre le Brésil et l'Argentine, qui compte à peu près 3 millions d'habitants, c'est-à-dire la population de la Bretagne, par exemple. Et là-bas, il y a déjà 25 000 logements qui ont été créés par autogestion, autoconstruction et en propriété collective par des coopératives d'habitants dont tout un modèle a été développé depuis les années 60 et c'est devenu une politique publique. Une politique donc qui établit des bases à partir d'un cadre législatif, des financements et des possibilités de formation des groupes qui veulent se organiser en tant que coopérative. Ces groupes-là, ce sont des familles qui sont de faibles ressources. Donc ça fait une grande différence avec les coopératives qu'on peut voir dans d'autres pays ou les projets autogérés qu'on peut avoir en France. C'est que ce sont des familles qui relèveraient du logement social, mais qui décident de ne pas vivre dans du logement social, mais d'organiser leur futur habitat avec des normes communes, avec une participation active de tous les intégrants.
Il y a des enseignements particuliers que vous auriez tirés de ces différentes expériences qui pourraient s'appliquer en France ici ?
Donc les initiatives qu'on a vues qui fonctionnent bien sur la propriété collective, l'autoconstruction, l'autogestion, sont les initiatives qui sont accompagnées financièrement et techniquement par les collectivités ou par l'État. Ça, c'est un fait. Et ensuite, pour moi personnellement, c'est l'éducation populaire, les gens qui sont vraiment qui participent au projet, à la construction, mais après aussi à la gestion, sont ceux qui ont suivi des cours de formation, tant sur la construction d'un immeuble, mais qu'est-ce qu'une propriété collective, les instruments juridiques, les instruments urbanistiques. Donc les gens ont conscience de tout ce qui existe. Et ce qui fait qu'après le projet marche et qu'ils en parlent avec cœur, et ils savent très bien ce qu'ils font et comment ça fonctionne, et du coup qu'ils défendent au final l'idée de la propriété collective et de l'aide mutuelle.
Et aujourd'hui, Habitant en Mouvement, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous faites ?
Donc pendant les 10 mois de voyage, on a rédigé au fur et à mesure des articles sur notre blog habitantenmouvement.tumblr.com. Au fur et à mesure, donc, on écrivait ces articles de façon à mettre des informations en ligne, parce qu'on a capté des tonnes d'informations dans tous les pays, donc on a écrit au fur et à mesure. Et là, l'objectif, maintenant qu'on est de retour en France depuis un mois, c'est d'écrire un livre qu'on va auto-éditer sur nos apprentissages plus personnels, et puis sur l'autogestion, sur la place des femmes, sur faire découvrir aussi ce que sont les quartiers populaires latino-américains.
Sur les luttes urbaines aussi.
Les luttes urbaines qui ont été un énorme volet qu'on a rencontré au fur et à mesure. Donc les résistances à des grands projets urbains, la vie dans les quartiers populaires qui sont menacés par des projets immobiliers. Et donc tout ça, on va essayer de le synthétiser dans un livre qui serait quand même destiné à un public assez large. Donc c'est pas nécessaire d'être architecte ou urbaniste pour pouvoir le lire. Et voilà, donc aussi inviter au voyage, inviter à l'initiative, se motiver pour prendre du recul depuis la France, enfin partir un peu de France ou même partir de sa région pour une autre région française, de façon à avoir un certain recul sur son chez-soi, ses pratiques et ce qu'on peut changer soi-même et aussi dans le collectif.
Et quel est votre regard sur l'habitat participatif, peut-être même à travers le prisme de votre expérience sud-américaine ?
Personnellement, je suis donc très, très surpris par ces rencontres parce que j'ai énormément appris.
Les rencontres de l'habitat participatif qui se passent, oui, à Marseille là, en ce moment.
Oui, donc les rencontres où aujourd'hui sont mêlées des associations d'habitants, des gens qui ont déjà créé leur projet, mais aussi des bailleurs sociaux, des municipalités qui sont proactives, des CAUE, donc à l'échelle des départements, des organisations publics et d'autres qui sont privés, qui sont là aujourd'hui pour discuter des avancées qu'il y a eu et de ce qui reste à faire.
Et surtout, c'est qu'avant, l'habitat participatif était quand même resté aux mains d'une certaine classe moyenne. Et aujourd'hui, ce qui nous semble intéressant, c'est qu'ils vont essayer de défendre à la classe dite plus populaire pour que l'habitat participatif touche l'ensemble de la population. Et ce qui est quand même une grande avancée, je trouve, en France.
Merci Pierre Arnold, merci Charlène Lemarié.
Merci à vous.
La rédaction des 3-8, 10 minutes avec.